C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes jeudi quand même, avec des températures agréables à venir, donc 5 degrés ce matin, 3 novembre. Le maximum aujourd'hui par cette journée ensoleillée va tourner autour de 17 degrés. Demain, vendredi, toujours du soleil, 20 degrés. Samedi, c'est assez incroyable, 5 novembre, on prévoit du temps ensoleillé, quelques nuages et 23 degrés. Et finalement, dimanche, il y aura de la pluie intermittente autour de 19. Et les températures vont retrouver une certaine normalité la semaine prochaine, lundi. Et même mardi, ben on aura des températures la nuit sous zéro. Alors, je sais pas si c'est le dernier coup de chaleur, là, mais pour aujourd'hui jusqu'à, disons, dimanche, on a des températures nettement au-dessus de la moyenne de saison. Beaucoup de choses ce matin. Je vais commencer par les différents travaux parce que je sais qu'à cette heure-là, il y a beaucoup de gens qui sont en déplacement. Il y aura à Montréal, autour de Montréal, des chantiers en permanence pour les prochaines décennies. Il faut se rentrer ça dans la tête. Et avec tout ce que ça comporte comme problème. On le sait, depuis lundi, on vit une expérience au tunnel La Fontaine. C'est vrai que les gens ont probablement choisi d'autres options que le tunnel La Fontaine. Donc, se rabattre sur Jacques-Cartier, sur le pont Victoria. Et ce qui, Marc vous le décrit chaque matin, amène des situations qui sont parfois même amplifiées en raison d'un accident. Alors, ce qu'on apprend donc, c'est qu'il y aura des travaux à l'autoroute Ville-Marie. Ça va durer jusqu'en 2026. On va commencer bientôt. Il y a déjà des travaux préparatoires qui ont été faits. Et vous retrouvez les détails dans la presse ce matin. Et donc, ça veut dire que pour le tunnel Vigée-Ville-Marie, on parle d'un chantier majeur qui va coûter à peu près 2 milliards. Et pour reprendre les propos de la mairesse de Montréal, c'est comme si toutes les infrastructures du Grand Montréal arrivaient à terme à peu près en même temps. Il faut tout faire comme en même temps. Là, on a réglé Turcot pour commencer. Il y avait le fameux chantier du pont Champlain aussi qui était un enjeu. On dit on va régler ça. Après ça, le tunnel. Puis là, rajouter par exemple les gens qui prennent le pont Jacques-Cartier se dirigeant vers le centre-ville par l'autoroute Ville-Marie, ben c'est terminé, là. Pas maintenant, là, mais dans les prochains jours, il y aura des entraves. Bref, ça va être un cauchemar, ça aussi. Pour ce qui est de l'autoroute métropolitaine, le chantier est en tant que tel reporté. Puis, dans le très concret, il y a évidemment aussi ce qui va se passer du 7 au 19 décembre à Montréal, 15e conférence, là, la COP15, sur la diversité biologique. C'est entre 10 000 et 15 000 délégués dans un quadrilatère hautement sécurisé. Il y a une auditrice qui vient de m'écrire, son chum est dans la police. Elle a dit, c'est sûr que je vais faire la popote de Noël pas mal tout seul. Il sera pas ici souvent. Je pense que beaucoup de policiers vont même coucher à l'hôtel. Puis le métro Place d'Armes sera fermé. Ça fait beaucoup. Et ça veut dire que les déplacements, puis on tient même pas compte de la météo, là, vont quand même être assez difficiles. Voilà pour ce qui est du portrait global de ces chantiers. Maintenant, il y a une décision qui a été rendue en cours. C'est l'hôpital Sainte-Justine qui pourra enlever le tube qui permet à un enfant de 5 ans de respirer. Cet enfant-là est dans un coma. Il a été retrouvé dans le fond d'une piscine au mois de juin. Et c'est assez rare là, que un hôpital va devant le tribunal pour obtenir cette permission. Mais les médecins qui ont examiné l'enfant ont conclu qu'il n'y avait aucun espoir. Et que cet enfant-là a eu ce qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire tellement aigu, des problèmes cardiaques, convulsions. Et l'enfant montre quand même certains signes. Et on a donc proposé de retirer le tube qui fait la ventilation mécanique pour voir comment l'enfant allait réagir. Et les parents s'opposent à cette pratique des médecins. Les médecins ont dit, écoutez, ça donne rien de le laisser brancher sur cet appareil de ventilation mécanique. La presse nous précise ça ce matin parce que c'est un enfant qui est nourri par gavage, atteinte sévère du tronc cérébral. c'est un enfant qui, évidemment, ne pourra pas s'en sortir. Mais les parents, pour des raisons, de ce que je comprends, religieuses, disent que c'est pas au médecin à décider, que c'est à Dieu à décider, puis contestent l'évaluation médicale. On a fait venir un autre médecin. Et finalement, le tribunal estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'on lui enlève ce tube. Ça donne absolument rien de le laisser brancher encore dans cette situation de coma. Maintenant, dossier du serment du roi. On apprend ce matin, là, ça vient de tomber, que Québec solidaire, les députés, vont prêter serment au roi. Tout ça pour être capable de siéger et de déposer une loi qui va faire disparaître le serment. On fera pas un grand débat juridique ce matin, là, puis j'entends les experts qui se prononcent, mais en bout de ligne, on va se retrouver avec les trois députés du Parti québécois, à moins qu'ils changent d'idée, qui vont refuser de prêter serment au roi et à qui on va bloquer l'accès au Salon Bleu. Québec solidaire va rentrer, le Parti libéral va rentrer et le Parti québécois va rester de l'autre côté de la porte. C'est suffisant pour faire adopter une loi, là, évidemment. Et ce qu'on dit, dans certains milieux, puis j'ai entendu des experts se prononcer, puis on va parler entre autres ce matin avec François Gendron, l'ancien président de l'Assemblée nationale, doyen parlementaire, c'est parce que si tu adoptes des lois en présence de députés qui n'ont pas été assermentés correctement, il peut y avoir des contestations, puis on va se lancer dans une espèce de tourbillon juridique à l'infini. Alors, est-ce qu'on va attendre que cette loi-là soit adoptée, puis après ça, on pourra assermenter les députés du Parti québécois? Ils sont juste trois, là. Juste rappeler que c'est pas ça qui va changer bien des éléments, là, en termes de vote. Et ça pourrait permettre, c'est ce que Jolin Barrette a dit hier, on va le faire, on vous le dit qu'on va le faire, là, mais on va le faire correctement. En tout cas, c'est la position qu'il défend. Il y a aussi le dossier de l'immigration, j'en ai parlé. M. Trudeau était quand même assez étonnant hier en disant « ça va très bien avec Québec et on va aider à choisir des immigrants qui parlent français, des immigrants donc francophones. » Puis Québec maintient la même position, c'est-à-dire qu'il y a une capacité d'accueil qui est limitée. Il y a évidemment l'enjeu du français, mais il y a aussi l'enjeu du logement. Et on voit comment se déplacent les immigrants beaucoup à Montréal. Ça commence un peu dans certaines régions, mais on voit par exemple que ce qu'on appelle la minorité non visible des Noirs, par exemple, il y en a très, très peu qui se retrouvent à l'extérieur du Grand Montréal, à Québec, par exemple, ou je sais pas moi, Matane, Rimouski. C'est, disons, assez rare quand vous regardez les différentes données. Mais M. Trudeau pense que le Québec devrait en accueillir plus. Et le problème, c'est que si le fédéral accueille autant d'immigrants, là, la fameuse cible de 500 000, et que le Québec prend pas sa part, ben c'est sûr que le poids du Québec va baisser au sein du Canada. C'est déjà le cas. Et c'est tout le débat, là. On nous présente ça comme étant la réponse à la pénurie de main-d'œuvre. Beaucoup d'économistes, dont Pierre Fortin, disent que c'est pas comme ça. C'est pas vrai à 100%. Et qu'il faut trouver, quand on parle de problème de main-d'œuvre, des façons d'être plus productif. Puis je vais vous donner des exemples tantôt de problèmes de main-d'œuvre. Alors, en résumé, Québec solidaire va prêter serment et on verra ce que le PQ va faire d'ici le retour à l'Assemblée nationale. Très bien, au Parti libéral, il y a plusieurs appels au calme qui sont lancés, mais ce matin, par exemple dans la presse, c'est l'ancienne députée Nicole Ménard qui dit que le moment est venu pour Dominique Anglade de quitter son poste. Je la cite, c'est clair qu'elle n'est plus apte à diriger le Parti libéral. Je trouve ça épouvantable, terrible ce qui se passe. On ne se reconnaît plus au parti. Et c'est vrai que beaucoup de libéraux ne reconnaissent plus leur parti. En fait, si j'avais à résumer, on a vu des déchirements, des crises au Parti québécois sur la place publique. Et ça, on peut remonter à René Lévesque pour ce qui est des affrontements. Puis je vous le dis, là, les plus vieux vont se souvenir du fameux René Random. Il avait défié le parti puis il avait dit « je vous suis pas ». Et je demande d'être... En fait, vous allez voter pour moi, sinon je quitte. Il avait forcé les militants, les membres, à l'appuyer contre... Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a une tradition d'affrontement sur la place publique. Parti libéral, c'est un parti qui fait ça doucement. on fait comprendre à quelqu'un que c'est le temps de partir. On va leur conduire à la porte. On va parfois l'aider à se refaire une vie professionnelle, mais c'est rare qu'il y ait des attaques frontales comme celle-là. Et ça fait, quoi, une semaine et demie que ça dure. Et Mme Anglade n'a pas fait de commentaire. Est-ce qu'elle vit dans une bulle? Est-ce qu'elle est consciente que rarement dans l'histoire on a vu une fronde aussi sévère? Alors, pour l'instant, pas de signe de fumée. Elle est toujours chef du parti. Est-ce qu'elle va rester longtemps? Est-ce qu'elle va attendre le vote de confiance? Ça reste à voir. Journal de Montréal ce matin, une histoire assez bizarre qui concerne la police de Longueuil. Hier, on recevait le directeur, Fadi Daguerre. T'es pas au courant de ça. Et donc, en entrevue au journal, il reconnaît, semble-t-il, l'existence d'un climat pourri, voire toxique, qui dure depuis un certain nombre d'années. Ça touche les policiers et policières et ça touche également des civils. Gestion de policiers ou d'employés qui ont des problèmes de santé mentale. Puis là, des gens du syndicat qui disent que M. Daguerre, sur la place publique, parle de l'importance de ces questions-là, de bien traiter les gens, mais qu'à l'interne, il y a des problèmes. Et on donne peu d'exemples. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de vous résumer ça, mais en gros, on parle possiblement de gens qui auraient été harcelés pendant la pandémie, un officier supérieur, et qu'on aurait laissé aller, qu'on aurait même dit à M. Daguerre, écoutez, si vous intervenez pas, si vous rétablissez pas le climat, vous allez avoir un suicide sur la conscience. Puis il y a un témoignage aussi d'un employé qui raconte un peu ce qui s'est passé donc au sein de la police et que c'est quand même, disons, pas un cas isolé, mais qu'il y a vraiment un espèce de climat qui est pourri, semble-t-il, à la police de Longueuil. On va aussi regarder ce matin quelques nouvelles sur la scène internationale, parce qu'il y a des dossiers importants. D'abord, la Corée du Nord a tiré 3 nouveaux missiles, cette fois en direction de la mer du Japon. Et ça fait suite à 14-15 missiles qui ont été tirés également, qui ont inquiété la Corée du Sud. Là, c'est une fausse alerte qui a été déclarée au Japon. Et disons que depuis quelques jours maintenant, on sent qu'il y a beaucoup de nervosité dans la région parce que ces tirs sont accompagnés d'alertes à des tsunamis. Alors, vous comprendrez que c'est tendu. C'est pas la première fois que le dictateur Kim Jong-un se livre à ce genre d'opération, mais là, il a repris du service dans une région qui est déjà sous haute tension. Maintenant, pour ce qui est de l'Ukraine, pour la première fois, les Ukrainiens ont utilisé des drones suicides contre des bateaux russes qui se trouvent en Crimée. L'attaque a vraiment frappé, en pleine mer Noire, et des navires ont été touchés. Et c'est la première fois qu'on utilise ce genre d'équipement militaire. Il y a toujours des discussions également en fond de décor concernant ultimement l'arme nucléaire que les Russes pourraient utiliser. Les Américains pensent que ça demeure une option, mais les Russes, pour l'instant, disent pas, disons, avoir de stratégie dans ce sens-là.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Il y aura point de presse de la santé publique cet après-midi parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées aux experts concernant la période de l'automne, de l'hiver, qui s'amorce, disons, même si on a actuellement des températures assez clémentes. Est-ce qu'il y a plus de cas de COVID? Est-ce que les variants, les sous-variants même, arrivent à déjouer le système de défense? On va regarder tout ça ce matin avec le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Bon, alors, il y aura point de presse de la santé publique. Si vous aviez à nous faire un portrait COVID ce matin de ce qui se passe au Québec, qu'est-ce que vous pourriez nous dire?
Ben, la COVID est bien sûr là. Elle est bien implantée dans notre environnement. Elle ne partira pas. Par contre, on est aujourd'hui quand même, si on regarde le tableau global, dans une société très ouverte. Et en dépit de ça, les hôpitaux ne sont pas débordés avec la COVID. Donc, on parle beaucoup de débordement dans les hôpitaux, mais ce n'est pas la COVID qui est la cause principale de ça, loin de là. On sait aussi que la société ouverte a ramené d'autres virus. Hein. On sait par exemple que le virus respiratoire syncytial qu'on appelle le RSV a fait un retour en force, surtout dans la population pédiatrique. Beaucoup d'enfants n'ont pas été exposés à ce virus-là durant leurs premières années de vie à cause de la pandémie, puisque donc on a eu toutes sortes de restrictions en termes de garderies, etc. Donc là, il y a comme une espèce entre guillemets de rattrapage, et donc le RSV est présent. Il y a d'autres virus qui sont présents. En ce qui concerne la COVID, je vous dirais, on a à peu près ce qu'on avait dans le passé. C'est-à-dire que vous voyez que le nombre d'hospitalisations n'augmente pas de façon dramatique. L'immense majorité des gens hospitalisés avec la COVID n'ont pas la COVID comme diagnostic principal. Et la maladie sévère due à la COVID est un phénomène qui est aujourd'hui quand même rare et qui n'est plus du tout ce qu'on voyait au début de la pandémie. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la COVID ne change pas de ce qu'on voyait avec la COVID il y a 2 mois, 3 mois. Alors oui, on rentre dans la saison hivernale, on va avoir plus de virus respiratoires. Quelle va être la saison grippale cette année? C'est certainement une question qu'on peut se poser. On n'a pas la réponse. On verra comment les choses vont arriver. Et on parle aussi de l'arrivée de ces sous-variants. Et là, peut-être, il faudrait éclaircir un peu le tableau de ces variants et de ces sous-variants, ce que ça signifie.
Allez-y.
La première chose qu'on sait, c'est que le variant Omicron est au Québec depuis le mois de décembre 2021. Et depuis décembre 2021, tous les variants qu'on a eus sont de la même famille qu'Omicron. C'est-à-dire, on n'a pas d'alpha, on n'a pas de delta comme on a eu dans le passé. Donc, vous vous rappelez, on a eu BA1, BA2, etc. On est rendu à BA4 et BA5. Et là, on parle de nouveaux variants qu'on appelle BQ, BQ1.1, XBB, même dans certains pays comme le Singapour, l'Inde, le Bangladesh. Mais tout ça, ce sont les derniers variants. Ce sont même pas des variants, ce sont des sous-variants du BA5. Donc, on est vraiment, je vous dirais, dans une évolution du virus qui tend à se raffiner de plus en plus pour, si vous voulez, persister dans la population. Et comme un virus, il faut essayer de se mettre à sa place. Son rôle, c'est de se propager. Mais en se propageant, il n'a plus du tout le même impact qu'on avait au début de la pandémie. Alors, on parle beaucoup de ce qu'on appelle l'échappement immunitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que nos anticorps qu'on a eu dû au vaccin ou à une infection au préalable nous protègent encore? Et la réponse, elle va être de deux ordres. La réponse, elle est oui. Ces anticorps et ces vaccins nous protègent contre l'infection sévère. Et notre immunité cellulaire, qu'on appelle, on a une certaine immunité mémoire, nous protège contre l'infection sévère. Donc, pour l'immense majorité des Québécois, l'infection sévère, c'est probablement pas au menu du jour si vous avez été vacciné et si vous avez été vacciné et vous avez fait la COVID en plus. Maintenant, la vaccination ne nous protège pas forcément contre l'infection. Et l'infection, ça veut dire attraper le virus, être forcément peu symptomatique ou avoir un rhume. Et ça va vous protéger, mais de façon temporaire et partielle. Alors oui, on peut avoir des réinfections, on peut avoir des infections partielles, mais je pense que la bonne nouvelle quand même qui est à retenir, et c'est je vous dirais le grand succès de la campagne de vaccination, c'est que l'infection sévère, ça donne une excellente protection. Et la meilleure chose pour prouver ça, il y a une grosse étude qui est sortie et qui montre que dans les pays où on a beaucoup vacciné, l'espérance de vie qui avait diminué en 2020-2021 revient à une normale autour de 2021-2022. Donc on voit que la vaccination a ramené la société, si vous voulez, à son niveau presque pré-pandémique en termes d'espérance de vie. Maintenant, on doit vivre et composer avec un virus dans notre environnement, mais qui n'a plus la même facette que ce qu'il avait dans le passé.
Parlons des enfants. J'ai beaucoup de questions de parents, et pas toujours reliées à la COVID, mais vous parliez tantôt de virus respiratoires qui, font plus de dommages aux enfants. Est-ce que dans les écoles du Québec, il y a des parents qui posent cette question-là, là, l'enfant devrait porter un masque? Première question. Deuxième question, s'il a des symptômes, pas toujours COVID, mais problèmes respiratoires, est-ce que on devrait le retirer automatiquement de la classe? Puis si oui, combien de temps? C'est le genre d'inquiétude qu'ont les parents.
Ouais. Ben, écoutez, on revient à une vie un peu pré-COVID. C'est-à-dire que des infections respiratoires chez les enfants, c'est commun. c'est pas mauvais pour les enfants d'attraper un nombre important d'infections respiratoires. Vous savez, les infections qu'on attrape durant notre enfance, c'est ce qui nous protège éventuellement contre les infections sévères quand on devient vieux. Et la COVID nous a montré ça. Ce qu'on a appris de la COVID, c'est qu'il faut pas attraper la COVID pour la première fois quand on avait 80 ans et plus ou 70 ans et plus, à une époque où on n'avait pas de vaccin. Et on a vu que quand on attrape une infection pour la première fois et qu'on a un système immunitaire qui n'a plus la capacité de répondre parfaitement et au quart de tour, ben on en paye un prix. Donc attraper des infections virales, faire son immunité quand on est jeune, quand on est un enfant, surtout avec des infections qui sont quand même relativement bénignes, c'est pas mauvais. Alors, est-ce qu'on devrait faire porter des masques aux enfants? C'est peut-être pas une mauvaise idée, mais je pense que c'est aussi, est-ce que le coût-bénéfice à ce moment-là devient important? Il faudrait l'évaluer. Il y a des sociétés comme les pays asiatiques où on le fait beaucoup pour des raisons culturelles. C'est quelque chose qu'on fait moins en Occident. Ça pourrait être une solution, je vous dirais, par politesse, entre guillemets, mais l'impact serait quand même relativement, à mon sens, limité globalement pour l'ensemble des virus respiratoires dans le contexte de l'école. Ça dépend de où vous parlez. Si vous me dites à l'hôpital, oui, ça vaut la peine de porter un masque parce que vous avez des populations à risque. Mais à l'école, vous êtes en première année, vous avez des enfants qui sont pour, heureusement, l'immense majorité d'entre eux en bonne santé, d'attraper un virus respiratoire, c'est pas la fin du monde.
On doit rester à l'écart de l'école, par exemple, combien de temps, selon vous?
Ben, ça dépend un petit peu, je vous dirais. L'idée, c'est d'essayer d'éviter d'envoyer des enfants qui ont la COVID à l'école, dans leur phase aiguë. Alors, c'est sûr qu'il y a des enfants qui vont attraper la COVID. Ils seront pas très, très malades, mais ils vont peut-être faire un peu de fièvre, ils vont peut-être tousser, ils vont peut-être avoir des symptômes de rhume. Alors, est-ce qu'il faudrait les garder en dehors de l'école? Au moins, je vous dirais, le temps qu'ils fassent plus de fièvre, c'est important. Et en général, on dit quelques jours, on dit jusqu'à 5 jours à peu près. Ça ne diminue pas le risque infectieux à zéro, mais au moins, ça limite les conséquences. Maintenant, pour les infections respiratoires, on est tous allés à l'école avec des rhumes quand on était jeunes. Et je vous dirais, jusqu'à un certain point, il ne faut pas non plus rentrer dans une société qui doit être complètement cadenassée. On essaie de la rendre complètement stérile. Parce que peut-être vous attraperez pas le rhume à l'école, mais vous allez l'attraper ailleurs. C'est-à-dire que votre enfant qui ne sera pas en contact avec un enfant qui a le rhume, ben, il va aller faire des activités sportives où là, quelqu'un d'autre aura un rhume et ainsi de suite. Alors, on peut pas arrêter la propagation des simples rhumes dans la société.
Dernière question. Beaucoup de parents ont été vaccinés, plusieurs doses, donc toutes les étapes. Ils hésitent énormément à faire vacciner leurs enfants en disant que c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que vous dites à ces parents?
Ben, écoutez, c'est une question, en effet, qu'il faut essayer de comprendre au point de vue sociologique. Alors, pour les enfants, c'est sûr que quand ils font la COVID, pour l'immense majorité d'entre eux, ils sont pas très malades. Donc, on peut pas dire aux parents qu'on vaccine les enfants pour qu'ils n'aillent pas aux soins intensifs. C'est pas la même chose que les personnes âgées. On sait par contre que chez les enfants, il y a des problèmes rares, mais parfois sévères, de syndrome inflammatoire systémique. Il y a aussi, on sait qu'il y a des données, et puis là, les enfants, j'inclus peut-être les adolescents, on sait qu'il y a des données que la vaccination donne une certaine protection de plus en plus contre la COVID longue. On sait que c'est moins mon domaine, mais il y a aussi des données, il faudrait plus demander à quelqu'un qui a une spécialité pédiatrique, l'histoire de la COVID longue chez les enfants, mais il y a des données qui sortent également. Alors, je vous dirais, le bénéfice de la vaccination chez les enfants, il est à la limite plutôt pour prévenir un syndrome qui est quand même rare, mais qui est très sévère. Est-ce qu'il y a un impact d'être vacciné pour éviter la COVID longue? Parce que ça arrive, la COVID longue, même chez des gens qui ont fait une COVID, on parle de jeunes adultes en bonne santé. Donc, ça veut pas dire qu'on a fait une COVID très sévère pour faire une COVID longue. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que ce qu'on a appris avec le temps, c'est qu'à long terme, l'immunité hybride, c'est-à-dire le fait d'avoir été vacciné et d'attraper la maladie, parce que le vaccin vous empêchera pas forcément de faire l'infection à long terme, et on le sait puisque beaucoup de Québécois ont été vaccinés et ont fait la COVID, mais cette immunité hybride, c'est probablement la meilleure immunité que vous pouvez avoir à long terme pour vous protéger contre la maladie sévère.
Merci beaucoup, Dr Weiss. Bonne journée.
Également.
Au revoir. Docteur Carl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital juif de Montréal. Histoire bien triste, un enfant de 5 ans qui a été retrouvé, on le sait, au mois de juin, au fond d'une piscine. Depuis ce temps, il est hospitalisé, il se trouve dans un profond coma. Et la cause s'est retrouvée devant le tribunal. Pourquoi? Parce que l'enfant est donc dans le coma et on lui a installé un tube pour lui permettre de mieux respirer. Donc, il est assisté. Il est nourri également par gavage, atteint d'une sévère, des problèmes sévères au tronc cérébral. Bref, c'est un enfant qui va pas bien. La presse rapporte les détails de ce jugement qui a été rendu par la Cour et le tribunal reconnaît à l'hôpital Sainte-Justine, le droit d'enlever le tube à l'enfant. Les parents s'y opposent pour des raisons religieuses. J'irai pas dans tout le détail ce matin, mais essentiellement, ils en appellent à Dieu pour sauver leur enfant, alors que les médecins de Sainte-Justine proposent de retirer le tube qui assure donc cette ventilation. On dit que c'est contre-indiqué pour son état, que ça permettra pas d'améliorer sa condition et que même ça peut lui causer des dommages si on continue à le faire. Ça veut dire, et c'est très rare des causes comme ça, là, qui se retrouvent devant le tribunal, c'est le pouvoir qui est donné aux médecins et des parents, eux, s'y opposent farouchement. J'en parle ce matin avec Maître Jean-François Leroux, qui est avocat spécialisé en responsabilité médicale. Maître Leroux, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, c'est vrai que c'est rare pour ce type, d'intervention que les tribunaux sont sollicités. On le voit pour des cas de santé mentale, mais pour dire qui a le droit, l'hôpital ou les parents, c'est plutôt rare, non?
Effectivement. Donc, heureusement, d'ailleurs, que c'est un outil qui est plutôt rarement utilisé par les établissements de santé là, dans ce genre de situation-là. C'est un cas essentiellement d'acharnement thérapeutique. Et l'essentiel des causes qu'on retrouve en jurisprudence en matière d'autorisation de soins, c'est vraiment au niveau de la santé mentale.
Mais quand on parle d'acharnement comme ça, d'un côté, vous avez des parents qui sont croyants, là, qui disent faut continuer, faut pas arrêter, on ne fait pas confiance aux médecins, on va chercher d'autres avis. Comment la Cour fait pour évaluer les arguments?
Très bonne question. Ben évidemment, on s'en remet essentiellement à la preuve scientifique qui est présentée. Donc, le tribunal décidera pas comme ça, arbitrairement, en quoi constitue le meilleur intérêt de l'enfant. De façon systématique, le tribunal va considérer d'abord et avant tout l'avis d'experts qui vont souvent d'abord être l'équipe traitante qui, eux, ont une maîtrise puis une connaissance personnelle du dossier. Et souvent, en plus, il y a d'autres experts qui vont se greffer au dossier. Alors, dans le cas qui nous concerne, non seulement l'équipe traitante a déjà évalué le dossier, mais en plus, je crois comprendre qu'on avait obtenu un deuxième avis dans un autre milieu de soins. Et c'est important de comprendre que les usagers du réseau ont toujours droit à ce deuxième avis-là. Donc, en cas de mésentente avec l'équipe traitante, le premier réflexe avant de s'adresser aux tribunaux, c'est de demander un deuxième avis, ce qui semble avoir été fait dans ce cas-ci.
On a tendance à galvauder l'expression, mais je pense que dans ce cas, c'est important, là, c'est-à-dire l'intérêt de l'enfant. C'est quoi l'intérêt qu'il a à être intubé, à ne pas être intubé? On a beau avoir comme parent des convictions, là, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant?
Effectivement, donc c'est le Code civil qui nous le dit. Alors, quand vient le temps pour le tribunal de statuer sur le meilleur intérêt, il y a des critères qui ont été développés par les tribunaux également. Puis en gros, il faut s'assurer que les soins vont être bénéfiques, malgré même la gravité et la permanence de certains de leurs effets. Alors, c'est pas juste de savoir s'il y a juste des bénéfices. S'il y a des inconvénients, on va les supposer. Les soins doivent être opportuns dans les circonstances, puis les risques présentés doivent pas être hors de proportion avec le bienfait. Le problème en cas d'acharnement, c'est que on peut croire à tort que le maintien de l'intubation est sans conséquence. Mais quand on lit le jugement puis le témoignage des experts, on se rend compte que la prolongation de l'intubation est aussi associée à des inconvénients, selon la preuve qui a été présentée dans ce dossier-là.
Parce que l'argumentaire parental est pas, je m'excuse de le dire comme ça, là, c'est pas scientifique, c'est un discours religieux. Il pense que son enfant va être le premier à se sortir d'une situation et il en appelle à Dieu, il croit au miracle. On est dans ce genre de réflexion, là.
Oui, ben, il y a peut-être une petite nuance à apporter. Ce que je comprends de la décision, essentiellement, c'est que la famille n'était pas nécessairement en désaccord avec l'extubation, mais en cas d'échec, on voulait être en mesure, donc, de réintuber l'enfant. Et c'est là où il y a une mésentente quant à la suite des choses, où est-ce que le fait de réintuber l'enfant serait associé à plus d'inconvénients. Et oui, on semble espérer une guérison et spontanée, là, si je peux dire. Mmh.
Merci beaucoup, Maître Leroux. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Maître Jean-François Leroux est avocat spécialisé en responsabilité médicale chez MedLegal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Ce matin, le Journal de Montréal nous parle d'un climat toxique, d'un climat pourri. À la police de Longueuil, ça touche le climat de travail, donc du côté des patrouilleurs, hommes et femmes, et du côté également des civils. Et les intervenants reprochent au directeur du service, Fadi Daguerre, d'avoir laissé aller les choses, de pas être intervenu. Et on comprend mal, disent certains des témoins, là, pourquoi des cadres qui ont, disons, des comportements douteux, pour ne pas dire agressifs, sont toujours là. Il est avec nous ce matin. Monsieur Daguerre, bonjour.
Bon matin, monsieur Arcan.
Vous êtes arrivé là en 2017, pardon. Et il y avait déjà ce problème-là quand vous êtes arrivé?
Oui, justement.
Vous le saviez en arrivant que...
En arrivant, ce qui est arrivé, c'est que c'est le climat de travail au niveau de cette unité-là bien précise, qui est en lien avec l'article, et existait depuis 2010. Donc, ça faisait 7 ans.
Pourriez-vous me décrire la nature du problème problèmes?
Ben, ce qui était décrit, c'est qu'il y avait certains gestionnaires étaient très directifs. Ils parlaient des allégations d'harcèlement, ils parlaient d'intimidation. Et lorsque j'ai été mis au courant, premièrement, j'ai pris certains gestionnaires de haut niveau. Et j'ai pris de côté, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est. En arrivant, il me dit, tout va bien. Je dis, êtes-vous sûr que tout va bien? Tout va bien. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, je m'en vais rencontrer les gens sur le terrain. Et je réalise que tout va mal. Et donc, le fond de l'article de ce matin, il est vrai, il est bon. C'est pas là-dessus que je veux intervenir. Je veux plus intervenir sur expliquer beaucoup plus, contextualiser, puis qu'est-ce qui a été fait, parce que c'est pas vrai qu'on est resté les bras croisés, surtout pas, dans un contexte comme celui-là. Et quand j'ai réalisé que j'étais en train de me faire mentir à tour de bras, ben, rapidement, j'avais commandé un rapport externe. Qui était en lien avec les RH de la ville ainsi que le collectif. J'ai dit, faites-moi un diagnostic, qu'est-ce qui se passe? Et c'était à peu près au mois de septembre-octobre 2017. Donc ça faisait à peine 6 mois que j'étais arrivé. Ils me sortent le rapport. Le 16 novembre 2017, je reçois les conclusions du rapport. Le 16 novembre, la même journée, je remercie 2 très hauts cadres, tout de suite, immédiatement sur le champ. J'ai dit, vous êtes suspendu. Ça s'est terminé par un congédiement puis par la prise de retraite de l'autre. Mais immédiatement, j'ai demandé à ce que je puisse les suspendre.
Est-ce que d'autres éléments toxiques identifiés dans le rapport sont demeurés en poste?
Bon, il y a une seule personne sur 5 qui est demeurée en poste. Il était question de 5 gestionnaires. 2 qu'on a remerciés, 2 autres qu'on a déplacés sans gestion, et une personne avec gestion, mais ailleurs, dans un autre département, et présentement, ils sont performants. Et la seule personne qu'on a gardée là, c'est une personne qui fonctionnait. Même dans le sondage, même dans le rapport, il ressortait qu'elle, on est capable de travailler avec elle. C'est elle qui est restée. Je peux vous dire une chose, quand vous avez un climat de travail toxique depuis des années, depuis 2010, 7-8 ans, les choses ne se règlent pas rapidement. Par contre, dès 2018, dès qu'on a remercié certaines personnes, tout de suite j'ai commandé un plan d'action à l'interne. Savez-vous quoi, M. Arcan? Un an exactement plus tard, fin 2018, un sondage confidentiel de tous les employés de ce département-là, on l'a fait. Puis le sondage est remarquable. C'est ça que je trouve un peu regrettable dans l'article de ce matin, c'est que j'ai remis tous les documents pour leur montrer les résultats positifs du sondage, de l'amélioration du climat.
Mais moi, je lis ça ce matin, là, puis des sources qui disent que, que vous avez été passif dans le dossier de la santé mentale touchant des employés, que quelqu'un vous a dit, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui... Une mort sur la conscience, là.
Quand je suis allé rencontrer des personnes, le fameux meeting que j'ai eu avec eux, franchement, la salle, les gens étaient en désarroi. Là, je leur ai dit, je vais bouger, et je vais bouger vite. Les gens me regardaient, crédible, me dit, jamais vous ferez ce que vous dites. Ah oui? Un mois plus tard, quand je remercie les 2 personnes, je suis retourné voir le groupe. Les gens pleuraient encore, mais cette fois de dire merci, vous avez finalement écouté. Monsieur Arcan, ça c'est pas parfait. Je vais toujours essayer d'avoir une porte ouverte, toujours essayer de faire en sorte d'améliorer les choses. Quand on parle de santé mentale, ça me surprend beaucoup parce que, au niveau des policiers, exemple, j'ai engagé un psychothérapeute dès 2018. Et là, je viens d'engager un autre psychologue. Ce psychothérapeute, dès 2018, à chaque semaine, on compte tous les groupes de policiers.
Mais là, c'est parce que vous êtes pris de front, là. Puis là, je vais prendre une image, là. Ouais. C'est comme si on dit, regardez, là, vous avez un beau discours, vous tenez des propos.
Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais.
Vous dites que c'est important, la police vue différemment. Puis là, on se dit, est-ce qu'on se ramasse avec une police toxique, des employés qui roulent parce qu'il y a un roulement de personnel dans, en tout cas, du côté des civils en informatique, je crois. Puis vous êtes assis là, puis vous faites rien, là.
Mais c'est parce que M. Arcand mal me connaître. Surtout que ma porte du corridor est toujours ouverte. J'essaie toujours de rencontrer des personnes le plus possible sur le terrain. Mais honnêtement, je veux revenir un peu sur le fond de l'article. Il faut pas le prendre de manière négligente du tout. Parce que s'il y a des gens qui ont appelé des médias, ça veut dire que nous, en interne, on n'a pas réussi assez à les écouter. Donc moi là, c'est un constat, je me dis, Fadi, faut encore plus, parce que ça veut dire qu'il y a des besoins, il y a des besoins particuliers, faut que je continue à m'ouvrir la porte, faut que je continue à écouter, puis à bouger. Les psychologues que j'ai engagés, les psychothérapeutes que j'ai engagés pour le niveau des policiers, à chaque semaine, rencontre tous les policiers, chaque groupe par groupe, échange avec eux, post-trauma, comment ça se passe, le climat. Ça, c'est tout des gestes extrêmement concrets.
Mais par exemple, est-ce qu'il y a une ligne qui existe où un policier peut, de façon anonyme, porter plainte?
Mais il peut le faire de manière anonyme, soit via son syndicat, soit via avec des certains gestionnaires. J'ai pas une ligne précise qui, mais ce serait peut-être une bonne idée. Honnêtement, je suis fermé à rien. Mais ce que vous voyez dans une organisation de 1000 employés, c'est qu'il y aura toujours des points à améliorer. Il y aura toujours des choses. Ça fait 20 ans.
Mais quelle est la température de l'eau actuellement?
Bon, l'eau actuellement dans ce département de sondage que j'ai eu, elle est beaucoup meilleure. Vraiment, dans ce département, ça va mieux. Mais est-ce que c'est parfait? Non. On avait 46 recommandations, on en est rendu à 35 ou 36 qu'on a réglé. On continue à améliorer le climat de travail. Il y a même d'autres départements. Je suis convaincu, M. Arcand, là, on se parle aujourd'hui, là. Peut-être la semaine prochaine, on aura un autre article qui va nous dire tel département, il y a telle chose qui fonctionne pas, puis la direction ou la ville ne bouge pas assez vite. Premièrement, j'ai une information tout récemment. Je suis en vacances en plus. J'ai eu une information tout récemment qu'il y avait certains malaises dans un département. Tout de suite, mon directeur adjoint, la journée qu'il en a su, le lendemain, il était sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est pas comme, il n'y a pas de fin à améliorer un climat de travail. Je pense qu'il y a un début, puis il faut continuer à l'améliorer au fur et à mesure.
Merci d'être venu ce matin.
Ça fait grandement plaisir.
Fadi Daguerre est le directeur du service de police de Longueuil.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Très bien. On apprend ce matin que les députés de Québec solidaire vont finalement prêter serment au roi. Donc, siéger à l'Assemblée nationale, tout ça pour faire adopter justement un projet de loi qui va rendre optionnel le serment au roi. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, est avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision-là? Là, il y a le Parti québécois qui dit « nous, on refuse ». Puis là, vous, ce matin, vous nous dites « ben, on va le faire parce qu'on veut faire le changement ».
Ben, ce qui a fait la différence, c'est la décision du président de l'Assemblée nationale, une décision qui a été rendue il y a deux jours. Et dans cette décision-là, le président est clair. Il dit, pour changer la situation, pour que le serment au roi devienne facultatif, il faut passer par un projet de loi. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va prêter serment au roi. Comprenez-moi bien, ce ne sera pas très agréable comme moment pour personne à Québec solidaire, mais on va le faire et on va aller déposer, ce sera notre premier geste de la session parlementaire, un projet de loi pour rendre facultatif le serment au roi au Québec. Franchement, on est rendu là. C'est une pratique archaïque. C'est même un peu humiliant pour bien des gens, pour des Québécois et des Québécoises, mais je pense aux élus autochtones aussi. Bref, il faut tourner la page sur ce débat-là. Et la meilleure manière de le faire, c'est de se boucher le nez, de prêter serment et de déposer un projet de loi. C'est ce qu'on va faire.
Donc, ça veut dire que vous croyez pas les arguments juridiques soulevés par le Parti québécois qui prétend qu'une motion peut faire le travail, que ça ne nécessite pas nécessairement un projet de loi, qu'on pourrait siéger. Ils ont même l'impression que la décision du président, c'est une commande du gouvernement.
Ouais. J'ai parlé à Paul Saint-Pierre Plamondon hier soir. Je lui ai tendu la main. Je lui ai offert ma collaboration pour rédiger une motion comme il souhaite le faire pour que les députés du Parti québécois puissent entrer au Salon Bleu. Je lui ai dit que j'étais prêt à déposer cette motion-là s'il le souhaitait. Après ça, quand on parle de la décision du président de l'Assemblée nationale...
Okay, juste une précision, qu'est-ce qu'il vous a répondu quand vous avez fait cette proposition-là? Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il m'a dit qu'il allait y réfléchir, qu'il allait voir la position qu'on allait prendre. En ce qui a trait à la décision du président de l'Assemblée nationale, on peut être en désaccord avec cette décision-là. Je suis en désaccord avec cette décision-là. Je pense qu'elle est trop rigide. Mais ceci étant dit, c'est quand même lui le président de l'Assemblée nationale et il n'y a pas de mécanisme d'appel. Cette décision-là, elle est finale. Alors nous, on est en désaccord avec la décision, mais on en prend acte. On va prendre nos responsabilités, entrer au Salon Bleu, déposer un projet de loi pour rendre facultatif le serment au roi.
Vous allez entrer à l'Assemblée nationale. L'opposition officielle, le Parti libéral, est en crise, c'est le moins qu'on puisse dire. L'autre parti d'opposition va peut-être rester à l'extérieur, on verra. C'est-à-dire que ça vous place dans un pas pire de rôle pour affronter le gouvernement, là. Ça a dû jouer dans votre réflexion un peu aussi.
La vérité vraie, comme on dit là, M. Arcand, c'est qu'en 2018, on avait essayé de contourner cette obligation de prêter serment au roi, puis on l'avait fait par conviction. À l'époque, on était les seuls à essayer de contourner ce serment-là. Ça n'avait pas fonctionné. Cette année, pour les mêmes raisons, des raisons de conviction, on a essayé encore plus fort de contourner cette obligation-là. Cette fois-ci, on l'a fait conjointement avec les députés du Parti québécois et on a obtenu des gains. On a obtenu l'engagement d'un projet de loi de la part de la CAQ. On a obtenu la possibilité de faire les deux serments de manière séparée. Donc, on a fait avancer le débat, on a fait évoluer le dossier, mais la prochaine étape, c'est quoi? C'est un projet de loi. Je vous le donne dans mille. Comment on dépose un projet de loi en siégeant à l'Assemblée nationale?
Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Ma question, je la reformule. Est-ce que le fait que le Parti libéral est ébranlé, que la chef est pour le moins contestée, c'est un avantage pour vous?
Ça n'a pas du tout fait partie de notre réflexion, M. Arcand. À l'époque, le Parti libéral aussi n'avait pas de chef. Je veux dire, c'est pas le genre de facteur qu'on tient en compte quand on parle en caucus, puis c'est ce qu'on a fait hier toute l'après-midi, d'enjeux comme ceux-là, des enjeux de conviction, des enjeux de liberté de conscience.
Non, mais ça, OK, vous me dites, c'est pas un enjeu, on n'en a pas discuté, non. Mais est-ce que vous le voyez quand même comme un avantage de mieux vous positionner? Quand un parti est plus faible à côté, c'est une opportunité de passer devant.
Ben moi, ce que je pense, là, c'est que les gens qui ont voté pour Québec solidaire, ils n'ont pas voté pour qu'on fasse avancer notre projet politique dans le corridor. Ils ont voté pour nous pour qu'on fasse avancer notre projet de société à l'Assemblée nationale. On va le faire avec la fougue puis la cohérence que les gens nous connaissent. Et pour ce qui est des problèmes des autres partis politiques d'opposition, vous leur poserez ces questions-là.
Une dernière question. Il y a un débat qui s'engage là, avec la volonté du gouvernement fédéral d'atteindre 500 000 immigrants au Canada d'ici 2025. Si on fait un calcul rapide, ça donne 115 000 environ, là, le ratio pour le Québec. Le premier ministre Legault a dit, pas question, on s'en tient à 50 000. Monsieur Trudeau dit, il y a moyen de faire avancer le dossier. Votre position, clairement, là, sur la nouvelle offre fédérale, sur la nouvelle cible fédérale, c'est quoi?
Ben, tant qu'on va être une province dans le Canada, on va être devant des cul-de-sac comme celui-là. Et tant qu'on va être gouverné par François Legault, un premier ministre qui n'a plus de poids, qui n'a plus de rapport de force sur les enjeux d'immigration à cause de sa rigidité idéologique et de ses bourdes à répétition sur cet enjeu-là, on va être pris dans un blocage comme celui-là. À Québec solidaire, on a mis carte sur table durant la campagne électorale. On a été clair. Pour nous, en 60 et 80 000, c'est raisonnable pour en termes de quantité d'immigrants et d'immigrantes par année au Québec. Ça demeure notre position. Moi, ce que je constate, c'est que M. Legault n'a plus aucun levier. Il n'y a plus de rapport de force envers M. Trudeau parce qu'il s'est peinturé dans un coin sur les enjeux d'immigration.
Mais est-ce que vous allez être obligé de faire front commun? Parce que vous-même, avec 60 puis 80 000, vous êtes loin de ce que M. Trudeau propose. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous battre avec le gouvernement contre le fédéral?
On verra comment le dossier va évoluer. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas seulement un débat de chiffres. Parce que ça, c'est un débat incomplet. Il faut aussi, et je dirais même surtout, faire un débat de modèle. C'est quoi notre modèle d'immigration, notre modèle d'intégration, notre modèle de francisation? Parce que ce soit 60, 80 ou 90 000 personnes qu'on accueille au Québec, si notre système d'immigration demeure dysfonctionnel, si c'est impossible d'avoir de la francisation gratuite, facile, accessible, si on n'est pas capable de régionaliser l'immigration, qu'on accueille 60 ou 90 000, le modèle ne fonctionnera pas plus.
Parfait. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Gabriel Nadeau-Dubois, qui est le co-porte-parole de Québec solidaire.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.